France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Une figure hors norme, un militant politique qui estimait que c'était son homosexualité qui l'avait amené à rejoindre le camp des damnés de la Terre. Surpris par la nuit, se penchait en mai 2003 sur celui qui fut le promoteur d'un marxisme libertaire.
Surpris par la nuit.
Daniel Guérin, mort en 1988, célèbre militant politique, promoteur du marxisme libertaire, et également, on le sait beaucoup moins, homosexuel, tout aussi engagé. C'est pourquoi l'émission que vous allez entendre maintenant est intitulée « Daniel Guérin, du politique au charnel ».
La figure de Daniel Guérin traverse l'histoire politique et sociale du XXe siècle. Né en 1904, Guérin devint très jeune anticolonialiste à la suite du voyage qu'il fit au Moyen-Orient et en Indochine. Auteur d'un reportage en Allemagne au moment de la prise de pouvoir d'Hitler, adhérent de la SFIO, acteur du Front Populaire, historien de l'anarchisme, signataire du Manifeste des 121 pendant la guerre d'Algérie, puis promoteur d'un marxisme libertaire, Guérin fut de tous les combats. Mais Guérin ne fut pas seulement un témoin engagé dans son temps. C'est physiquement qu'il éprouve les injustices et c'est charnellement qu'il les combattra. Son engagement de tous les instants passe en effet par une quête infinie de fraternité, comme il l'écrivait lui-même en 1962. Pour faire la nique aux mauvaises langues et défier les professeurs de vertu, pour sortir de lui-même et tenter d'agrandir le cercle jamais assez large de la fraternité, de s'identifier encore un peu plus avec le peuple dont il était sans en être. En embrassant les luttes contemporaines, il embrasse l'ouvrier des années 30, le colonisé indochinois puis algérien, le noir américain et plus tard la jeunesse contestataire de 68. Dissidence politique et dissidence sexuelle s'entremêlent. Daniel Guérin, 1904-1988, du politique et du charnel, par Philippe Artier. Laurent Mulhaizen.
Daniel Guérin vient d'un milieu extrêmement bourgeois, c'est la grande bourgeoisie parisienne. C'est son père... partie de la famille des héritiers de l'Empire Hachette, qui était déjà important à l'époque. Sa mère et elle descend de la famille d'Echtal. Son grand-père avait fondé l'école des sciences politiques. La famille est extrêmement riche, possède un immeuble à l'angle des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain, possède des propriétés à travers toute la France. Son père, en plus de ses activités chez Hachette, a des actions dans la plupart des grandes entreprises ou des grands groupes capitalistes mondiaux de l'époque. Donc une grosse fortune. C'est une bourgeoisie en partie Et ça, c'est important pour son parcours en partie libérale, Dreyfusarde, et en partie conservatrice, réactionnaire, anti-Dreyfusarde. Une partie de la famille du côté de sa mère est juive, ce qui peut expliquer certains clivages aussi entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Il grandit au milieu des lettres, des arts. Au cours de ses études, qu'il a fait à Louis le Grand, il a très tôt décidé de devenir écrivain. À 14, 15 ans, il était... Mais il faut savoir qu'il est dans un milieu où on tenait salon, c'est-à-dire Mauriac, Anna de Noailles, Barrès, tout ça, c'est des amis de la famille. Il sautait en gros sur les genoux de Proust quand il était petit, Daniel Guérin. Et donc, l'accueil de son livre de poèmes, le livre de la 18e année, est un accueil du cénacle, des gens du milieu. Donc il est effectivement fêté, il reçoit des lettres de Colette, très gentilles, lettres de Mauriac, une lettre de Gabriel Fauré, une lettre de tous les amis de la famille. Sa mère jouait avec Gabriel Fauré, elle faisait du violoncelle, et lui, et Gabriel Fauré était au piano, enfin... Donc cet accueil-là, c'est aussi un accueil de reconnaissance. Il est très flatté par ça. Il en parle encore des années après. Il sortait les lettres, la lettre de Colette, et puis le petit mot de Gabriel Fauré. Il en parlait avec beaucoup d'émotion. Et il est extrêmement expansif. C'est un garçon d'un caractère très, très ouvert, très, très curieux, avec une sensibilité extraordinaire, sentant de façon extrêmement fine ce qui se passe dans les relations au sein de sa famille. Il va notamment découvrir ou sentir assez confusément, il le raconte dans son autobiographie de jeunesse, une sorte d'ambiguïté sexuelle chez son père. Et en même temps, il est troublé par quelque chose, il y a quelque chose qui lui manque, il y a quelque chose où il se sent à l'étroit. Et à un moment donné, c'est vrai que ses parents vont se demander pourquoi il traîne toujours du côté de Barbès et il n'est pas avec ses copains et ses amis du boulevard Saint-Michel. Il entre en homosexualité en même temps qu'il entre en révolte, c'est-à-dire qu'il s'intéresse au mouvement ouvrier et aux mouvements sociaux de son temps. C'est-à-dire à 18 ans, en 1921-22, à peu près.
Par l'homosexualité, j'ai été amené, étant donné que je m'intéressais surtout physiquement aux jeunes travailleurs, physiquement et au point de vue vestimentaire également, disons-le. Par conséquent, j'ai été amené à choisir par mes fréquentations homosexuelles des jeunes ouvriers. Ces jeunes ouvriers m'ont ouvert un monde, une façon de vivre, d'être, de se sentir, de se comporter absolument différente du milieu d'où je sortais. Et par conséquent, je me suis épris de la classe ouvrière dans son ensemble. Je crois que c'est la façon la plus claire de le dire. Je me suis épris de l'ensemble du mouvement ouvrier. Et pour moi, ce n'est pas une homosexualité réservée à telle ou telle catégorie, c'était la libération du prolétariat au point de vue physique.
Ce ne furent pas la pitié, la fraternité débordant de mon cœur. Ce ne fut pas la lecture des théoriciens, entreprise beaucoup plus tard, éclairante comme une ablation de la cataracte, non plus qu'une injustice sociale ressentie dans ma propre chair qui avait fait de moi un socialiste. Mais d'avoir, de bonne heure, recherché la compagnie des jeunes prolos, tiré avec eux dans les fêtes foraines, porter avec eux le lourd sac de camping, déambuler avec eux sur les routes, fonder avec eux les auberges de jeunesse, pris avec eux des trains sans billets, clapoter avec eux dans les piscines ou musarder sous la douche tiède, descendu les rivières à la nage, hisser avec eux la voile et affronter la tempête, cuisiner pour le rude capitaine au gouvernail, gueuler avec eux dans les combats de boxe, soulever avec eux des haltères, glisser face à face à la force des poignets sur les barres parallèles, soigner leurs nez saignants, leurs estafilades, leurs avaries et leurs entorses. Nouer avec eux des liens plus intimes que ne l'eussent été ceux de l'atelier ou de l'échafaudage, avoir dormi sur l'élastique matelas de leurs muscles, respirer leur odeur virile, s'être frotté contre la brosse de leur menton, avoir attendu patiemment leur retour du bal et leur rassurante présence pour glisser dans le sommeil, les avoir entendus tant de fois pester contre le bouleau, contre le pointeau, contre l'hosto, contre le proprio, avoir sondé le vide de leur poche ou de leur portefeuille, avoir admiré leur instinct de classe, leur robuste bon sens, leur merveilleuse faculté d'adaptation au monde, leur ingéniosité combinarde, leur gaieté invincible en dépit d'une chienne de vie.
C'était un phénomène double, n'est-ce pas ? À la fois, il y avait cette très vif attrait et il y avait cette profonde satisfaction de briser, en les fréquentant, les barrières d'une société, d'un milieu qui m'avait imposé une ségrégation constante depuis ma jeunesse. Je n'avais jamais été à l'école communale. Quand j'ai fait mon service militaire, j'ai fait les élèves officiers de réserve, donc j'ai jamais été simple soldat dans une caserne, et je n'avais pas exercé un métier de travailleur. Donc toujours, j'étais séparé de la vraie jeunesse, de la jeunesse laborieuse, n'est-ce pas ? Oui. Et enfin, je la rejoignais par des voies, évidemment, à moi.
Guérin disait lui-même que le sentiment qu'il avait de son homosexualité lui faisait prendre conscience d'une certaine dissidence. Et c'est cette dissidence, au départ une dissidence sexuelle, qui l'a poussé à la dissidence tout court. Il y a un phénomène d'attirance chez Guérin pour les classes dominées. Il a un profond sentiment d'injustice de la domination de sa classe sur la classe ouvrière. Et il y a, il s'en expliquera plus tard, une sorte de, aussi dans cette homosexualité, une sorte de désir de rachat. Il veut racheter la faute de sa classe par rapport aux classes ouvrières et se mettre du côté des opprimés. C'est comme une espèce de syndrome de Stockholm où il s'identifie, l'attirance pour et cette attirance sera toujours de cet ordre-là. Guérin sera attiré par les ouvriers célibataires qu'il décrit à grandes envolées lyriques dans ses autobiographies, les jeunes gars célibataires, disponibles, ouverts, de Ménilmontant, de Barbès, pas compliqués, une race dont il dit qu'elle a disparu. Ensuite, il prendra le parti des Indochinois pendant les années 30, et déjà des Algériens. Et ensuite, ça sera les Noirs américains. Enfin, il y aura toujours comme ça une espèce de mouvement et qui commence là avec la classe ouvrière.
La métamorphose, plus ou moins inconsciente, a fait soudain place au calcul très conscient que voici. La nature, ma nature, m'a obéré d'une très forte et très particulière passion. Sous peine d'être dévoré par elle, il va me falloir la capter comme d'autres ont essayé de transformer la marée en source d'énergie. En somme, sans le savoir, je me mets à l'écoute du bonhomme Fourier qui, ne réprouvant aucune passion, veut qu'aucune ne soit proscrite, mais qu'on les laisse jouer librement, greffées de contrepoids, pour les faire servir à la future société d'harmonie et qui entrevoit pour la plus malfamée d'entre elles celle qu'il appelle « amour » unisexuel, des emplois de la plus haute utilité. Je prends la résolution d'employer ma forme particulière d'érotisme, jusque-là incontrôlée, gaspillée, plus ou moins asociale, et de la subordonner aux fins les plus hautes. La libération de tous, qui serait aussi ma délivrance. Ceux dont l'adhésion au socialisme a emprunté des voies différentes auront sans doute quelque peine à admettre les miennes. Pourtant, c'est à ce substratum charnel que je dois la persistance de mes convictions. Rien ne pourra jamais les déraciner parce qu'elles ont surgi des profondeurs viscérales de mon être.
Dans les années 25, 26, 27, il décide de rompre complètement avec son milieu. Il va travailler dans une imprimerie à Barbès. Son père menace de couper les vivres. Il lui dit « je m'en fous ». Et il drague de façon incroyable. Il drague de façon complètement frénétique. Il collectionne les aventures, il collectionne les amants, tous des ouvriers. Et il en fait une description qui est d'ailleurs extrêmement, extrêmement étonnante. On pourrait presque croire que la France de la fin des années 20, c'est un véritable paradis pour les homosexuels. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on est à, il le dit lui-même, on est à une époque dans les années 20 où le prolétariat n'est pas encore un prolétariat, disons, comme lui il le dira plus tard, embourgeoisé, c'est-à-dire pollué par des idées de morale bourgeoise qu'il acquérera au fur et à mesure que son niveau de vie augmentera. On est encore avec des gens extrêmement simples où, finalement, l'homosexualité était une forme aussi d'exutoire sexuel. Et ça, Guérin le savait très bien. Il savait très bien qu'à Barbès, à Ménilmontant, il y avait des ouvriers qui venaient de la France rurale, qui n'avaient pas beaucoup de filles à rencontrer, qui avaient une misère sexuelle, et que là, il y avait là un terrain. Et il y avait surtout une absence de préjugés moraux qui étaient liés au fait que la classe ouvrière partageait pas encore cette part-là de la morale bourgeoise, ce qu'elle fera après. Donc il y avait une sorte d'ingénuité qui fait que Guérin parle de ces ouvriers et de ces petits amants de Ménilmontant avec beaucoup, beaucoup de... Il les regrettera toute sa vie, il dira, mais l'après-guerre a complètement perverti La classe ouvrière. Maintenant, les ouvriers se laissent pousser les cheveux, ils sont plus du tout virils, parce qu'il y a aussi... Il y a cette combinaison entre l'attirance pour l'autre classe et cette attirance pour ce qui est de l'ordre de la virilité. Guérin est quelqu'un qui collectionnera toute sa vie les photos et les amitiés de culturistes, de boxeurs. Il aura une sorte de fétichisme aussi sur un certain nombre de codes vestimentaires, la tenue du prolo. Il aura un goût pour l'uniforme aussi, ça participera de ses fantasmes. Et il les réalisera, mais il les réalisera toujours quand même comme un bourgeois. La grande, disons, contradiction qu'il aura beaucoup de mal à lever toute sa vie, c'est qu'il aura, bien sûr, cette attirance et cette vraie camaraderie avec les gens des autres classes. Et tous les ouvriers ou les gens simples qu'on a pu rencontrer et qui ont parlé de lui ont tous dit ça. Guérin, c'est quelqu'un avec qui on pouvait... C'était un intellectuel avec lequel on pouvait parler et qui était... quelqu'un d'extrêmement abordable et d'extrêmement clair et d'extrêmement présent et d'extrêmement engagé dans tout ce qu'il faisait. Ça caractérise tout son parcours.
Un proche voisin, un jeune et grand gars du bâtiment. Il arpente majestueusement la rue de Paris au lilas, le torse puissant, toujours ceint de noir. En hiver, paletot de cuir, en été, veste de satin. Ses cuisses noueuses se meuvent dans un pantalon bouffant, en velours à côte, large à mi-hauteur, étroit aux chevilles et serré à la taille par une large ceinture de cuir patinée par l'usage. Il marche vite, grâce à ses longues guiboles, mais d'un pas dansant et tranquille, très droit, roulant des épaules et fendant l'air avec la visière batailleuse de sa casquette. Quand il a rejoint son lieu de travail, le chantier de construction de la station de métro Mairie des Lilas, qu'il a dénudé ses bras gonflés, saisi la large pelle, commencé à s'humecter de sueur, je fais demi-tour et me hâte de regagner mes pénates avant que sa silhouette ne soit effacée de ma mémoire.
il y a un phénomène qui est extrêmement, à la relecture de ces textes autobiographiques, extrêmement moderne. Guérin dit, bah finalement, j'ai eu une vie de dragueur invétéré à Paris pendant quelques années, et j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour de la question. Alors soit je continuais et je devenais un collectionneur d'aventures et je baisais je sais pas combien de fois par semaine et c'était merveilleux et je m'épuisais à ça, soit je mettais cette ardeur, cet engagement, cette vitalité là, cette soif de d'authenticité, de proximité, de chaleur et de camaraderie, parce qu'il y a toujours cette idée de la camaraderie, de la solidarité de classe dans son rapport, y compris sexuel aux autres, c'est ce qui est intéressant chez lui. Je la mets au service de quelque chose de plus élevé, de plus noble, de plus utile, au service d'une vie meilleure et de conditions de vie meilleures pour l'humanité. Alors ça passe par le combat anticolonialiste, le premier. Effectivement, il y a un poste de responsable de la librairie Hachette qui se libère à Damas puis à Beyrouth. Il y va. Il goûte quand même aussi aux plaisirs locaux. Hein. Il ne se prive pas. Mais c'est là, il se rend compte que ce qui était déjà un petit peu le cas à Paris de la différence de classe, c'est-à-dire que lui, à Beyrouth, c'est beaucoup plus difficile pour lui de pratiquer la solidarité inter-classe ou de colon à coloniser en niant son statut de colon que ben, ce statut de colon, il lui colle à la peau, qu'il le veuille ou non. Alors c'est un petit peu plus compliqué. La solidarité avec les ouvriers, bon, on est dans la même culture, on est dans le même pays. Là, il y a le problème de la langue, il y a le problème de la culture, et puis il y a ce fossé absolument extrêmement difficile à combler du statut de colonisé. C'est-à-dire, comment pouvait-il ne pas être vu comme un colon, même s'il prenait le parti décolonisé ? Donc, pour ça, finalement, pour ce... Se rendre utile sur ce terrain-là, c'est vrai qu'il y a une activité, disons, sexuelle qui diminue un petit peu, et une prise de contact avec des responsables politiques. Ça, ce qui est extraordinaire dans le parcours de Guérin, c'est que dès la fin des années 20, il rencontre des nationalistes vietnamiens, anamites, qui lui disent « défendez notre cause en France ». Et c'est là où il participe avec Malraux notamment et quelques autres au comité de défense des prisonniers politiques indochinois, qui, avec 20 ans d'avance, ce qui vraiment sera une caractéristique de son parcours assez étonnante, sur toutes ses luttes d'ailleurs.
Alors quand je suis rentré à Paris, il y a eu désagréable d'employer le mot conversion, puisque c'est un mot en général employé à d'autres usages. Mais malgré tout, j'ai été converti. C'est-à-dire, j'ai eu comme saint Paul sur la route de Damas, j'ai eu sur le bateau de retour, en promenant le soir, la nuit, sur le pont tout seul, j'ai eu une illumination. Je me suis dit non, la vie que j'ai menée jusqu'à présent ne peut plus durer, je ne suis plus un fils de bourgeois, je vais rejoindre la grande armée des prolétaires. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai décidé de toute ma vie, pendant cette traversée.
Guérin fait vaguement des activités de journaliste en rentrant d'Indochine et fait des voyages en Allemagne. Alors c'est des voyages qui sont extrêmement, disons, érotico-politiques. C'est très très étrange. Il a fait des interviews, il a rapporté énormément de photos. Et ce sont deux voyages, un avant l'avènement du nazisme et l'autre juste après, où il va vers ce qui l'attire le plus, c'est-à-dire il va rencontrer de jeunes Allemands. Il y en a plein sur les routes à l'époque parce que c'est la crise économique. Et là, c'est extraordinaire le reportage qu'il ramène. Il écrit d'abord un texte qui s'appelle « La peste brune » où il décrit la montée du nazisme en disant « Attention, ça va nous tomber dessus, on est en 31-32. Personne en France ne prend Hitler au sérieux. Personne, même pas la gauche. Lui dit « Attention ». Il y a quelque chose qui se prépare, ça va être très grave. Parce qu'il est sur le terrain, parce qu'il discute avec les gens, parce qu'il rencontre des bandes de gars qui photographie, si possible, quand ils sont en train de se baigner à poil dans les rivières, des athlètes allemands, comme ça, très beaux, très blonds. Et il les retrouve dans son second voyage, alors qu'ils sont passés au national-socialisme, ils sont dans les SA. Il raconte ça. Il part avec un camarade, d'abord à pied, ensuite premier voyage, ensuite à bicyclette. Et là, il y a une sorte d'érotisme qui sous-tend tous ses écrits sur à l'époque. Il rentre, il publie ses reportages et il entre à la SFIO.
Au bord d'une rivière où nous nous baignons, nous avons fait connaissance avec une paire de copains. L'un, quand il y avait du travail, était cordonnier et l'autre teinturier. Ils n'ont aujourd'hui pour se vêtir qu'une veste rapiécée à même le torse nu. Et ils me montrent en riant leurs brodequins éculés d'où prennent le frais des doigts de pied longs et roses. D'une poche déchirée, il tire avec précaution un carnet crasseux, leur officiel livret de nomade. Sur des pages et des pages, c'est une longue suite de noms de localités inscrits à l'encre et au crayon, apposés au moyen de tampons. Des noms reviennent déjà deux, trois fois et sans doute sur les pages qui restent blanches reviendront encore. Un cycle infernal. Il ne prendra fin que par l'enrôlement dans les chemises brunes ou l'embauche dans les usines d'armement. Mais en attendant, le gouvernement pré-fasciste embarque déjà quelques-uns de ses trimardeurs à titre de volontaires dans des camps de travail militarisés. Crever de faim ou se laisser embrigader, telle est pour la jeunesse allemande de 1932 l'alternative.
Dans les années 30, l'entrée en militance correspond à un choix. C'est-à-dire, c'est le choix de... Il sait et il sent que les deux ne sont pas forcément compatibles, qu'on ne peut pas parler d'homosexualité quand on milite ni à la SFIO, plus tard au PSOP, l'aile gauche et dissidente de la SFIO. Donc il se lance dans le militantisme et il décide que voilà, c'est ça qui va occuper sa vie. Et ça va occuper sa vie... C'est un acteur très très présent sur le terrain dans les luttes syndicales au moment du Front populaire, radical en plus, c'est à l'extrême gauche, donc présent sur le terrain. Il a tout simplement pas le temps. Alors il voit bien comme ça de temps en temps des grévistes, des piquets de grève où il se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, mais il a décidé que c'était la. Le militantisme qui devait l'emporter. Tout son parcours ultérieur sera imprégné par cette volonté de concilier les deux, de réconcilier les deux, c'est-à-dire à la fois sa dissidence sexuelle et la dissidence politique. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Il faudra attendre 68. Et puis il se marie, parce que là, il faut savoir que je crois que Daniel Guérin était un personnage extrêmement contradictoire, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. C'est ce qui fait sa richesse. Il y avait un grand désir de liberté et il avait besoin à la fois de pouvoir aller avec qui voulait, quand il voulait, et il avait besoin d'une famille. Il avait un vrai désir de postérité, c'est-à-dire qu'il avait envie de faire des enfants, il avait envie de transmettre ce qu'il savait. Son mariage a été un mariage d'amour, pas du tout été un, une sorte de lubie. Sa femme, Marie, était elle-même militante. Elle était aux Jeunesses communistes. Et Guérin dit avec une certaine ironie mêlée de fierté qu'en 2 ans, il en a fait une parfaite libertaire. Il l'a débarrassée de toutes ces scories staliniennes dont elle était encombrée. Parce qu'il faut savoir quand même que son parcours est un parcours de communiste libertaire. C'est un virulemment anti-stalinien, anti-PC, ce qui facilitera pas toujours son parcours de militant d'ailleurs, qui le rapprochera d'abord des trotskistes à la fin des années 30, et puis ensuite, après la guerre, dès les années 50, des anarchistes et ensuite des libertaires.
Le mot réformateur est un mot qui ne va pas très bien dans mon vocabulaire, puisque je me considère comme révolutionnaire et non pas réformiste. Oui, c'est un retour à l'idée d'une liberté sexuelle qui, en effet, a été revendiquée au XIXe siècle, aussi bien par Fourier que par Saint-Simon et ses disciples. Mais tout de même, je dois vous faire remarquer qu'en réalité, le mot homosexualité n'est peut-être pas le mot qui convient tout à fait exactement. Au fond, je suis plutôt bisexuel. D'abord, je suis marié, j'ai une fille, j'ai des petits-fils, je ne suis pas du tout insensible, contrairement à ce que vous pouvez penser, au charme féminin, pas du tout même, mais il y a une espèce de phénomène qui fait que lorsqu'une image masculine se superpose à une image féminine, l'image féminine se dérobe à mes yeux et je ne vois plus que l'image masculine.
Il se marie, il vit avec... avec sa femme, au Lila, dans une petite maison. Il est correcteur. Il est à la CGT des correcteurs. Il est sur tous les... Il est délégué syndical pour toutes les grèves, qui coordonne les grèves au monde du Front Populaire en 36. Et il n'a absolument pas le temps de s'occuper de son homosexualité. Il y a une fille qui naît en 1936, donc Anne. Il y a toutes ces luttes extrêmement dures, ces scissions avec la SFIO, la montée de la guerre, Munich, des grèves réprimées, qui l'occupent pleinement. Et puis la guerre éclate et là, il est obligé de partir. Donc il est arrêté, il est en camp de prisonniers en Allemagne. Il revient à Paris en 42 et là... par le biais de Hachette, il a rompu avec sa famille, mais enfin, il a des liens très très forts avec son père, qui entre-temps lui a aussi révélé son homosexualité. Mais le père, qui est quand même d'une autre génération, vit ça de façon extrêmement discrète, cachée, et supportait assez mal dans les années 20 que Daniel drague comme ça dans les rues. Ensuite, il a mal supporté qu'il devienne militant socialiste. C'était quand même pas tout à fait les idées que partageait la famille. Et alors, en 42, il est, pendant toute la période de l'occupation, il a une activité de résistant, pas forcément qui prenait beaucoup de risques, mais enfin réel. Il a des liens avec les trotskistes, il fournit du papier pour qu'on puisse faire des tracts, etc. À cette époque-là, au tournant de la Deuxième Guerre mondiale, Guérin est assez proche des trotskistes. Et il est envoyé en fait faire une vaste enquête en Amérique à une époque où tout le monde se tournait plutôt vers la Russie et voyait dans la Russie l'avenir de la révolution. Lui dit non, la révolution elle va avoir lieu là où le capitalisme est le plus avancé, donc manifeste les signes les plus tangibles de sa décadence, c'est-à-dire les États-Unis. Donc je vais faire une enquête sur la progression de la conscience ouvrière et de la conscience prolétaire aux États-Unis, en voyant par exemple comment les bureaux du SWP, du Social Worker Party, qui étaient les trotskistes aux États-Unis, gagnent du terrain. Alors là, il est très très vite déçu. Il est fasciné par les États-Unis, il est fasciné par par le monde prolétaire américain, mais il voit pour la première fois à ce moment-là toutes les limites du fonctionnement du parti trotskiste. Dans sa grande réflexion, Guérin, pendant tout son parcours politique, va tourner sur la question de la spontanéité, enfin du socialisme autoritaire ou vertical, pyramidal, et du socialisme libertaire, c'est-à-dire de type conseilliste, avec la base qui décide. Et il se rend compte que les trotskistes sont très ambigus sur cette question-là. Alors très vite, il se désintéresse pas mal de tous ces leaders syndicaux trotskistes américains qui lui paraissent être des opportunistes, des carriéristes. Et surtout, et c'est là où il est, c'est quand même quelqu'un d'assez génial dans son parcours, il cherche dans tout ce qu'il étudie, dans tout ce qu'il approche, dans tout ce qu'il essaie de comprendre, la faille. Et la faille chez les militants syndicaux trotskistes américains, c'est le racisme. Il se dit, je vais voir des trotskistes et je tombe sur des gens qui, à l'intérieur même des syndicats, pratiquent des formes de racisme. Et alors là, évidemment, il embrasse immédiatement, dès les années 47, 48, 49, la cause des Noirs américains. Il se prend un ou deux amants noirs, il va rencontrer les gens, il discute avec eux. C'est pas facile, c'est quand même 20 ans avant Genet, à une époque où la question de l'émancipation des Noirs est plus qu'embryonnaire. Et il rentre à Paris, il écrit des livres sur la condition des Noirs américains qu'il compare à des colonisés. Lui a toute son expérience de la colonisation, et notamment dans les années 30, il se dit, mais un peuple colonisé. Et là aussi, il lit les deux, c'est-à-dire qu'il y a le combat aux côtés des Noirs américains, qui s'accompagne au niveau intime et privé d'une fascination, effectivement, pour ces autres colonisés, et d'une attirance aussi érotique, lui donne, nourrit, ça se nourrit réciproquement, son engagement politique aux côtés des Noirs américains.
Reconnaître au mouvement d'émancipation raciale dans le cadre du mouvement ouvrier à tendance socialiste une existence distincte et autonome ne ralentirait en rien la lutte pour l'abolition ultime du salariat. Bien au contraire, la condition même qui est faite aux nègres dans la société américaine les place à l'avant-garde de la révolte populaire et les fait exercer sur les autres forces sociales progressives le rôle d'un puissant stimulant. W. J. Cash admet que le nègre est de toute évidence le plus exploité et le plus opprimé des Américains. Henry Lee Moon fait observer que l'effroyable système de ségrégation et de discrimination raciale a créé un terrain fertile pour les semences de la Révolution. Paria dans son pays natal, écrit-il, le nègre apparaît comme ayant peu ou n'ayant rien à perdre à un changement fondamental de notre ordre social. Oliver C. Cox note que les nègres sont en puissance plus délibérément communistes que les blancs. Et Magdeleine Paz, après Tocqueville, pense que la population noire est sur le sol de l'Amérique, qui est et prospère, la porteuse de flammes, l'élément volcanique. Il n'est pas un nègre qui ne soit convaincu par sa propre expérience de tous les jours que le système social des États-Unis est défectueux. Les travailleurs blancs, dans leur majorité, ne sont pas encore parvenus ou sont parvenus beaucoup moins nettement à cette conclusion. Le nègre est dans ce sens l'éducateur du blanc. Chaque fois qu'il se heurte dans sa lutte pour l'égalité de droit à la démocratie capitaliste américaine, il aide l'homme blanc à en découvrir le véritable visage. Tandis que le blanc croit encore à la légende d'un État au-dessus des classes, d'un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, le nègre, lui, sait à quoi s'en tenir sur la véritable nature des pouvoirs publics. Comment pourrait-il faire confiance à des États qui le soumettent à une ségrégation légale, à un gouvernement fédéral qui, malgré ses promesses, ne lui garantit toujours pas les droits civils et qui, dans ses sphères propres, forces armées, services publics, continue à le traiter comme un citoyen inférieur? Avant les Blancs, le nègre est devenu sceptique à l'égard des deux partis traditionnels capitalistes qui l'ont également trahi. Avant les Blancs, il est devenu sceptique à l'égard de guerre pour la cause de la démocratie, puisqu'il y a versé son sang sans obtenir d'être traité selon le credo démocratique.
engagement aux côtés des peuples opprimés. Dans les années 50, on est en plein mouvement de décolonisation, donc la liste est longue. Ce fait sur cet élan de volonté de fraternité avec les peuples et n'attend pas que les sujets soient discutés dans la presse nationale. Enfin, c'est qu'il il attend pas de comment dire, par exemple, Guérin s'engage aux côtés de l'Algérie indépendante dès 52, dès 53. Alors c'est invraisemblable d'entendre aujourd'hui des débats sur la guerre d'Algérie où on dit un tel, ah, qu'est-ce qu'il a été courageux, il était du côté des Algériens dès 58, mais c'est... Oui, c'est bien, mais c'est jamais trop tard. Mais y a des gens qui ont accepté de se marginaliser en épousant immédiatement des causes qui leur paraissaient être des causes justes. Ils participent à des meetings, ils parlent devant des assemblées d'ouvriers algériens en France. Lui, l'intellectuel, bourgeois, théoricien du communisme libertaire, auteur d'un livre sur la Révolution française et la lutte des classes sous la Révolution française, devant par terre d'ouvriers algériens qui non seulement comprennent tout ce qu'il dit, mais l'acclament. Enfin, c'est quelqu'un qui a une force et une sincérité, un engagement qui sont absolus.
Martin Luther King est assassiné le 4 avril 1968.
Judah Wright.
Et je reçois un coup de fil de Daniel. Julia, Le Monde m'a demandé d'écrire un article sur l'assassinat de Martin Luther King. Je ne suis pas noir américain, tu es noire américaine, c'est toi qui dois écrire cet article. J'étais très jeune à l'époque, je débutais à peine dans le journalisme, mais il m'a donné cette plateforme. Et c'est cette espèce de générosité qui faisait qu'il était capable de s'effacer devant d'autres témoignages. Et même si ces témoignages étaient maladroits, pas aussi bien écrits qu'il l'aurait écrit, peut-être pas du même bord, etc., il pensait que le meilleur internationalisme qui soit, c'est de reconnaître que d'autres peuvent parler depuis les scènes, les arènes de leur propre lutte.
L'homosexualité, à vrai dire, n'est pas pour moi simplement le point de départ d'une activité qui m'a mené vers le mouvement révolutionnaire. Il est également profondément intégré, elle est profondément intégrée à toute la suite de ma vie. En d'autres termes, le feu du sang, qui est le titre de mon livre, que j'ai emprunté à Proudhon, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le feu du sang, c'est le flux vital, c'est le mana des Mélanésiens, c'est cette force très puissante qui, je crois, a animé toute ma vie et qui ne peut pas se diviser en deux parties, qui est une, qui est à la fois la conviction révolutionnaire et d'autre part l'attrait homosexuel. Les deux choses n'en font qu'une, je ne peux pas les séparer chez moi. J'ai écrit quelque part dans mon livre, j'en ai ma claque de ne pas montrer la face cachée de ma planète. C'est vrai, j'ai dû pendant un certain nombre d'années ne montrer qu'une des faces de ma planète parce que j'avais peur de chagriner ou de choquer des camarades qui n'étaient pas préparés à cela en montrant l'autre face. Mais finalement, lorsqu'on prend de l'âge et lorsqu'on est devant la grande vérité que sera un jour la mort, eh bien, il ne faut plus se cacher de la moitié de soi-même, il faut être soi-même tout entier.
Parler dans les années 50 ou dans les années 40 de l'opposition pression subie par les homosexuels est quelque chose d'inconcevable, puisque la réponse à ça, c'est « mais l'homosexualité, c'est une question privée, ça n'a rien à faire dans le débat ». Il ne faut quand même pas oublier aussi que tous les militants de gauche étaient des gens extrêmement surveillés par les différents régimes en place, surtout ceux qui étaient radicaux, et qu'au sein des organismes, on avait toujours peur que qu'on puisse découvrir tout à coup dans la vie privée de quelqu'un des éléments pour le faire chanter. Et Guérin est très conscient de ça et va chercher tout au fil de ces années, par quelle... C'est comme s'il y avait une grosse pelote de laine et il cherche le fil qu'on peut saisir et où on peut tirer et où on peut commencer à mettre en place et à discuter de cette problématique. Le premier livre, il écrit un livre à la fin des années 50, à la suite de ses lectures, notamment Fourier et Proudhon, qui s'appelle « Shakespeare et Gide en correctionnel », où il part de la littérature, il dit « mais enfin, c'est quand même incroyable, il y a Cocteau, il y a Proust, il y a dans une certaine mesure Mauriac, ces gens-là qui sont des grands bourgeois, alors ça c'est une homosexualité qu'on accepte, c'est extraordinaire, et puis on ne peut pas continuer à dire que c'est un vice bourgeois, que c'est un signe de décadence, les homosexuels partout ». Les homosexuels sont décolonisés. Il compare la situation des homosexuels à la fin des années 50 à celle des Noirs américains, en disant il y a là une part d'oppression, une part d'interdiction de vivre sa vie au grand jour et de chape morale qui pèse sur la vie des gens. Et il va commencer à travailler sur la question là. Là où c'est possible, il faut se dire qu'à l'époque, il n'y a rien. Lui, il dit il faut que les ouvriers puissent vivre, quand ils sont homosexuels, leur homosexualité de la même façon. Et un de ces angles d'attaque sera effectivement Fourier, et les théories, le phalanstère, enfin le nouvel ordre amoureux, sur la question de l'élargissement de la sexualité de chacun selon ses désirs, et le rapport Kinsey. C'est-à-dire qu'il va avoir une lecture qui va vraiment être une lecture extrêmement, disons, homosexualisante du rapport Kinsey. Alors Kinsey va dire que, bah tiens, 5 ou 10% des hommes américains disent avoir vu une fois des relations homosexuelles, et Guérin va s'engouffrer là-dedans, et son livre sur le rapport Kinsey. Et un livre important, mais pas un livre tout à fait objectif, c'est-à-dire qui tire véritablement les conclusions de Kinsey vers la thèse que lui a le souci de défendre, et qui est la thèse de l'émancipation homosexuelle.
La sexualité est une force formidable et polymorphe. Et sa répression opère des ravages, occasionne des souffrances aussi intolérables que celles résultant des autres formes d'oppression de l'homme par l'homme. Avant d'avoir lu le rapport Kinsey, un socialiste ou un communiste, impatient de mettre fin à la société de classe et à l'exploitation économique, pouvait, avec Lénine, considérer la question sexuelle comme secondaire, ou comme simple appendice d'une lutte qui devait se dérouler primordialement sur le plan social. Depuis la publication du rapport, une telle attitude n'est plus tenable. Il nous incite à poursuivre conjointement la révolution sociale et la révolution sexuelle jusqu'à l'émancipation complète sur les deux plans de l'être humain d'aujourd'hui, encore écrasé par le double fardeau d'une hydre à deux têtes, le capitalisme et le puritanisme. Kinsey estime que l'homosexualité masculine est un phénomène si fondamentalement naturel qu'elle serait encore bien plus répandue sans les barrages que lui opposent les contraintes sociales. Il va même jusqu'à oser écrire que, si ces contraintes étaient levées, elles pourraient l'emporter sur l'hétérosexualité et que les relations hétérosexuelles ne paraissent à la plupart des individus préférables aux homosexuels que parce que la morale courante encourage les premières et désapprouve les secondes. N'était le tabou, il est persuadé qu'un homosexuel expert pourrait trouver un plus grand nombre de partenaires chez les mâles qu'un hétérosexuel ne le pourrait chez les femmes.
Vous avez dit, Daniel Guérin, que Charles Fourier, reparaissant entre nous deux, alors que nous discutons, vous féliciterait pour cette anthologie, parce que cette anthologie lui donnerait son vrai visage. Or, il n'empêche que ce vrai visage, il a tenu, en quelque façon, à le camoufler. Y a-t-il à cela, à votre avis, une raison ?
La raison, c'est que les conceptions qu'il développait, ou qu'il développait à moitié, puisqu'il en cachait une partie, n'est-ce pas, était en avance de son temps, mais d'une façon extrême. On parle d'utopisme. Il y a des utopistes qui font des utopies économiques, sociales, littéraires, etc., qui sont un peu en avance, puisqu'ils sont des utopistes, mais ils ne sont pas tellement en avance. Tandis que sur ce plan-là, celui de la sexualité, celui de l'amour, il était immensément en avance. Et le drame, moi, je trouve, qui ressort des textes que j'ai rassemblés, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'il est aussi immensément en avance par rapport à notre situation d'aujourd'hui. Par rapport d'abord aux sexologues tels que Reich, Kinsey, Freud, etc., qui sont largement dépassés par lui, qui n'ont jamais osé préconiser un type de relation amoureuse de ce genre, n'est-ce pas ? Et vis-à-vis des mœurs telles qu'elles existent dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas ? Nous sommes encore extrêmement loin de ce que Fourier préconisait. Et pourtant, moi je suis convaincu que ce qu'il préconisait est la solution du problème amoureux. Donc, quel chemin nous avons encore à faire ?
Ainsi, l'homosexualité se voit ouvrir les portes de l'harmonie. Toutefois, dans d'autres passages, Fourier se montre singulièrement réticent à l'égard de l'ambigu, branche tombée en désuétude, interdit dans la civilisation moderne, déshonoré par nos préjugés, admis dans l'Antiquité, mais incompatible avec nos mœurs, impossible à exposer. Nous ne pourrions pas, écrit-il, sans scandale, choisir dès le début pour pivot de manœuvre une passion proscrite. Mieux vaut spéculer sur l'amitié, admise par le philosophe et le théologien. Allons-y donc pour la pure amitié. En harmonie, ce sera pour l'homme un charme que de trouver dans de nombreuses pages des amis intimes, que d'être pourvu d'une cinquantaine de serviteurs passionnés travaillant pour lui par préférence affectueuse. L'amitié, ou affection unisexuelle, sera à l'honneur au sein du phalanstère futur. Dans toute branche de service, chacun voit s'empresser pour lui un page ou une pagesse qu'il chérit. Ce service réciproque crée entre gens du même sexe des charmes spéciaux. Et surtout, ce service passionnel transcendra l'ancienne hiérarchie sociale. Nous avons dans l'état actuel beaucoup de germes tendant à ébaucher la fusion des classes, mais par des voies d'abjection, de sordide cupidité. On voit déjà ces vils moyens opérer des rapprochements entre des gens de classe antipathique. Ces rapprochements seront 20 fois plus faciles quand on opérera par des moyens nobles des liens de franche affection. L'amitié unisexuelle aidera à faire disparaître la division entre les classes, et cette symbiose est déjà embryonnaire, bien qu'entaché du vil signe monétaire dans la société actuelle.
À la même époque, il est compagnon de route, il participe aux réunions, il écrit dans la seule revue, le seul mouvement homosexuel existant de l'époque, qui s'appelle Arcadie. Ça, c'est la fin des années 50, hein, début des années 60. Et Arcadie, c'est vraiment bon teint, quoi. C'est l'homosexualité qui rase les murs, on se retrouve entre nous... Et comme on a des appuis politiques, eh ben, on peut intervenir quand il y a des petits scandales. Enfin, c'est la seule chose qui existe. Et il est là. Et il y est, et il essaie d'y faire des choses. Il écrit des textes sur Gauguin et les jeunes Maoris. Il écrit des textes sur Wilhelm Reich et l'émancipation sexuelle. Alors, il y a ce rapport Kinsey. Il y a un certain nombre de textes à caractère littéraire, puisqu'Arcadie, c'était une revue de société, mais enfin, tendance, disons, littéraire. En même temps, il s'y sent pas très bien. Parallèlement à ça, sa vie, il a quitté sa femme à peu près à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il continue à se voir et avoir des rapports très, très, très courtois, mais sa femme part aux États-Unis pendant une douzaine d'années, revient à la fin des années 50. Là, ils prennent deux appartements, l'un en face de l'autre. Enfin, ils se voient tous les jours, ils continuent à militer ensemble. Et ils passent 2 mois ensemble dans la maison qu'il a achetée à La Ciotat à la fin de la guerre, quand son père est mort. Mais le reste du temps, il a une vie de célibataire. Là, il reprend sa vie homosexuelle. Mais c'est une vie homosexuelle, finalement, comme la plupart des homosexuels des années 50, avec de l'argent, parce qu'il a hérité de la fortune de son père, avec son frère et sa sœur. Ils se sont partagés en trois une fortune qui était colossale. Donc il lui permet de ne plus travailler, de ne plus s'occuper que du militantisme, et d'être quand même à nouveau dans une sphère d'aisance. Et là, il reprend une vie homosexuelle qui est la vie qu'on pouvait avoir à cette époque-là, c'est-à-dire accompagner des jeunes gens, les aider dans la vie. Il y avait un certain nombre de jeunes comédiens comme ça qu'il accueillait dans sa garçonnière. Alors c'était des relations érotico sexuelles de la question du c'était pas du michetonnage, mais enfin ça pouvait y ressembler, avec une dimension qui est quand même une dimension très très frustrante. Guérin, c'est quelqu'un qui s'est jamais installé, sauf dans les 4 dernières années de sa vie, avec un garçon. Il disait, ça me paraissait inconcevable. Autant je pouvais concevoir de me marier et de faire des enfants, autant vivre avec un homme. Mais absolument, non, les hommes, c'est les hommes. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des représentants de la virilité, comme il appelait ça. Et il me les faut tous. Je veux me garder la possibilité de les avoir tous. Mais bon, il ne faut pas se leurrer non plus. Dans les années 50, Guérin, il a 50, puis 55 ans, puis 60 ans. Alors c'est certes quelqu'un de passionnant, mais on n'est quand même pas dans un rapport d'égalité avec ses jeunes amants de 25 ans qui l'aident dans la vie. C'est une dimension assez platonique, qu'il décrira lui-même comme une espèce de relation socratique à ces jeunes gens.
C'est encore possible ?
La dernière, oui.
La dernière question.
Oui.
Donc, le droit d'être homosexuel.
André Baudry.
Il y a 25 ans, quand j'ai commencé cette merveilleuse aventure d'Arcadie, que je recevais des garçons, j'entendais presque toujours ceci. Je ne m'accepte pas comme homosexuel. C'est le leitmotiv perpétuel. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a décidé à faire ce que j'ai fait. Parce que quand, en 1952-53, j'ai vu venir ces premiers hommes, souvent beaucoup plus âgés que moi, ou des jeunes, qui me disaient cela, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Il faut qu'ils s'acceptent. 25 ans après, en effet, j'ai le plaisir d'entendre, presque toujours, quand des jeunes homosexuels viennent me voir, la phrase « je m'accepte ». Donc, il y a eu une évolution en 25 ans, c'est indéniable. Mais ce que j'entends encore, et presque toujours, après c'est « je m'accepte », je vis mal mon homosexualité. Et le débat de ce soir, le droit d'être homosexuel, c'est peut-être d'avoir fait prendre conscience à ceux qui nous écoutent, peut-être que nous aurons fait comprendre aux gens qu'il faut aussi maintenant que les homosexuels puissent vivre librement dans un monde libre, dans la société qu'ils veulent, qu'ils choisiront démocratiquement, ici ou ailleurs, qu'ils ne soient plus persécutés, et autrement dit, qu'ils connaissent le bonheur et l'amour, puisque c'est cela, je crois, du moins, la fin de l'homme.
Je voudrais savoir à partir de quand l'organisation Arcadie a revendiqué l'homophilie à visage découvert. Et je voudrais savoir si le fait que le phare, qui date de 1971, que les gens du phare sont descendus dans la rue, s'il n'a pas eu une influence sur l'évolution d'Arcadie. Parce que justement, l'homophilie à visage découvert, monsieur Baudry, c'est tout récent. Parce que jusqu'à présent, c'était l'homophilie digne. Et cela, nous les homosexuels du groupe de libération homosexuelle, nous n'en voulons pas.
Mais vous êtes libres!
Bon. Bien, monsieur, oui, micro êtes... central. Oui, à vous.
Non, mais le truc qui déconne complètement, c'est que vous acceptez donc des ambassadeurs, des prolos et tout ça. Bon, est-ce que vous pensez vraiment que les homosexuels ouvriers ou ouvrières subissent la même répression que les ambassadeurs, la haute bourgeoisie et tout ça? Ouais, je crois qu'il faut faire. Là, c'est vachement important.
Oui, c'est très important.
Et c'est là où ça va dans une impasse, Arcadie, et que l'on dénonce. Bon, c'est que vous acceptez dans votre mouvement des gens qui ont pour charge, justement, d'appliquer cette répression, c'est-à-dire des préfets, et c'est eux qui ont un pouvoir d'arrestation et de mener des enquêtes et tout ça sur les homosexuels. Et généralement, quels sont justement les homosexuels qui sont le plus arrêtés, qui subissent le plus la répression? Ce sont ceux, justement, qui viennent du milieu ouvrier et les jeunes.
Bon, vous laissez répondre André Baudry. Laissez répondre André Baudry, s'il vous plaît, oui.
Il y a deux questions. Je répondrai d'abord au monsieur là-bas, n'est-ce pas, que ce qu'il dit n'est pas tout à fait exact. Si vous lisez des numéros d'Arcadie de 1954, 55, 56, je demandais déjà à ce moment-là aux Arcadiens ce que je leur demande maintenant, de faire connaître leur homophilie partout où ils le peuvent pour que les gens aient une autre opinion des homophiles que celle que leur a donnée pendant des mois, des siècles ou des années le cinéma, le théâtre, la littérature ou une certaine presse. Car vous savez très bien que les Français, en général, ne connaissent rien de l'homosexualité ou alors, encore une fois, les caricatures qu'on leur a présentées ici ou là, parfois, dans des films ou dans des pièces de théâtre. Donc cela, je l'ai toujours demandé.
Pour répondre à la question
de monsieur.
Des ambassadeurs et des ouvriers.
Les ambassadeurs et les ouvriers. Il y a en effet à Arcadie toutes les classes sociales, comme il y a tous les âges et comme il y a toutes les fortunes. Et il me plaît beaucoup de voir au club, précisément à Arcadie, dans un groupe de garçons se parlant, de trouver dans ce groupe aussi bien un garçon de 20 ans, un de 30 ans et un de 50 ans, et de les voir et de me dire, celui de 20 ans, par exemple, est à l'ENA, celui de 30 ans est employé au PTT, et celui de 50 ans est un cadre dans une petite société. Donc ces milieux en Arcadie se côtoient, en tout cas. Et ne croyez-vous pas que déjà sur le plan humain, ce n'est pas agréable et intéressant que nous puissions permettre à des gens de formation, de caractère différent, de se rencontrer?
Il a le temps, comme ça, de revenir un peu sur lui-même, de revenir à l'écriture, parce que c'est quand même un écrivain frustré, il a toujours rêvé d'être écrivain ou poète, il n'a jamais pu, il n'a pas le temps. Et effectivement, il décide d'être sincère. Et c'est quand même, à cette époque-là, alors qu'il était marié depuis 1934 quand même, dans les années 60, un peu avant 68, que sa femme apprend qu'il est homosexuel. Il y a ce paradoxe-là aussi. Voilà un homme qui est marié pendant 30 ans, qui a une fille, et qui est incapable de parler de son homosexualité en famille.
C'était la plus grande frustration de ma vie, n'est-ce pas, de m'être obligé à écrire, en essayant d'y mettre tout de même une certaine tenue de style, évidemment, de m'être obligé à écrire des livres qui n'étaient pas des livres où j'exprimais ce que d'habitude on exprime dans ce qu'on appelle littérature. Mmh. De temps en temps, j'ai réussi, n'est-ce pas, à trouver des consolations, n'est-ce pas, à cette frustration, en écrivant par exemple le livre dont nous parlons aujourd'hui,
Son Testament,
un autre essai et qui est une confession insolite de l'âge mûr qui s'appelle Le et lui, en écrivant un certain nombre d'essais qui ont paru sous le titre Essais sur l'évolution sexuelle, qui sont plus littéraires, parce qu'il y en a un par exemple sur les sonnets de Shakespeare, et un autre sur Anna de Noailles, un autre sur Gide, etc. Mais enfin, chaque fois que je revenais à la littérature, c'était une sorte de joie, n'est-ce pas? Car je revenais au terrain que je m'étais à moi-même défendu.
Cette introspection va le conduire petit à petit à réconcilier et va trouver les conditions. Elles vont lui être aussi offertes par l'époque, par la libération sexuelle et par mai 68, de concilier son homosexualité et son militantisme. Le gros espoir, ça c'est en 68, où enfin il révèle publiquement son homosexualité et l'inscrit, peut à nouveau la réinscrire dans la perspective révolutionnaire qui a été l'axe central de toute sa vie. Là, entre 68, disons de mai 68 jusqu'à la fin du phare, jusque dans les années 72, il y a eu là 4 années extrêmement importantes de son parcours.
On a rajeuni également les slogans contre les cadences infernales. Et puis, les homosexuels, sans lesquels il n'est pas de bonne manifestation gauchiste.
Nous, les seuls gens avec qui on voulait manifester, c'était le phare. Parce qu'on allait en manif, même si vrai, parce qu'on était libre de notre corps, parce qu'on peut marcher au milieu de la rue, parce qu'on peut crier, alors qu'en temps normal, on nous camisole ou on nous interne. C'est tout, et disons qu'on est des gens qui crions tous les jours et qui aimons marcher au milieu de la rue, voilà, sans drapeau.
Qu'est-ce que c'est le FA?
C'est le Parti homosexuel pour l'action révolutionnaire.
Le Front quoi?
Front homosexuel d'action révolutionnaire.
Guérin hésite à s'engager dans le mouvement de 68, parce qu'il est vieux, parce qu'il a 64 ans déjà, il se dit non mais c'est un mouvement de jeunes, c'est un mouvement spontané, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'un vieux crouton comme moi, ils sont tout inventés, ils sont en train de tout réinventer. Mais quand même, il est sollicité et il va se faire un certain nombre de cours sur l'autogestion, sur le communisme libertaire, à la Sorbonne, et il y a cette... Et là, il a des expériences dans cette grande fête qu'a pu être mai 68 et un certain nombre d'aventures comme ça avec de jeunes étudiants qui, dans ce contexte politique, avec quand même une extrême gauche souvent assez... orthodoxe, l'accueille bien parce que c'est un personnage aux idées politiques respectées. Et donc, il est un peu rasséneré. Il se dit, bon, finalement, je suis encore dans le coup et ce que je dis peut encore servir à ces jeunes gens de 68. Il avait toute l'expérience du Front populaire, lui. Des grèves sauvages, des négociations. Il disait, attention, les gars. Et ça marchait bien. Le phare, c'est un autre problème. Parce que le phare naît d'une scission avec... ces mouvements d'extrême gauche issus de 68 qui se sont finalement révélés être des mouvements à l'intérieur desquels la question de l'homosexualité était elle aussi barrée, oblitérée. Il faut quand même pas oublier que Guy Hockenheim, que Guérin a connu, expliquait lorsqu'il est entré au phare que s'il avait révélé son homosexualité Hockenheim était, je crois, à la LCR, il se faisait virer du bourreau politique tout de suite. Alors, le phare naît de ça, en disant la question de l'émancipation sexuelle, elle est indissociable de la question de l'émancipation politique et sociale. Alors, Guérin, intervenant lui quand même avec tout son passé de militant politique et syndical, il est accueilli avec une certaine méfiance par la partie la plus spontanéiste du phare.
Son activité, à l'origine, et par la volonté de ses fondateurs, était de réunir la lutte de classe contre la société dans son ensemble et la lutte particulière, spécifique des homosexuels persécutés à l'intérieur de cette société.
Nous voulons faire quelque chose d'assez différent de ce qui existait des mouvements homosexuels. Jusqu'ici, il n'y avait eu que la constitution d'un certain nombre de ghettos. Très peu en Europe, mais enfin, pas mal en Amérique. Ghettos genre dancing, endroit où on peut faire des rencontres pour baiser, mais surtout un endroit où enfin nous libérons les rues, au lieu de montrer notre sexualité dégoûtante, autant que nous soyons parqués. Ça ne nous plaisait pas. Ce que nous avons voulu, c'est avoir un contact avec les autres, ce qu'on nous refusait. Et justement, nous nous sommes demandé pourquoi on nous refusait ce contact, pourquoi nous ne pouvions pas parler avec les gens. Évidemment, l'habitude de ne pas parler faisait que nous n'y arrivions pas, d'ailleurs, au début. Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de parler avec les gens, de nous expliquer, et même de les agresser comme eux-mêmes nous ont agressés? C'est parce que, nous l'avons vu, nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation, et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Nous, évidemment, c'est différent. L'homme et la femme ne sont pas égaux dans le couple, c'est connu. La femme n'est pas égale économiquement. Elle est faite surtout pour langer les marmots, pour repriser les chaussettes de son mari. Résultat, deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité. À condition, bien sûr, qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro. Le couple hétéroflic, dans notre vocabulaire. C'est-à-dire le couple où il y aura un gars qui dirigera et l'autre qui fera les travaux ordinairement réservés à la femme. De même pour les femmes, il y aura possibilité d'égalité, d'une entente physique qui repose sur une connaissance des désirs de la femme. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. C'est pour cela d'ailleurs que nous nous regroupons entre homosexuels. Nous ne voulons pas faire un nouveau ghetto non plus. Faire un rassemblement de troupeaux pour nous serrer entre nous. Nous voulons agir.
J'ai chez moi un désir en creux autant qu'un désir en plein. Et c'est pas la société qui a à me l'imposer. C'est la société m'a imposé d'être un fort à bras. Ben j'en ai ras-le-bol d'être un fier à bras. C'est tout. Parce que mon rôle sexuel, il n'est pas applicable sur le rôle social. C'est pas vrai.
Il y a par rapport au phare cette... cet affrontement de deux radicalités et le souci de Guérin de mettre un peu d'ordre dans ce mouvement qui est extrêmement bordélique et qui pose, c'est très paradoxal, qui pose la question de l'émancipation aussi sur, en termes de pratique. C'est-à-dire que ce qui va faire que Guérin part, quitte le phare, ça va être le fait que finalement dans les réunions du phare, à la fin, on y allait plus pour se rencontrer, monter dans les étages et baiser. Ce que lui pouvait pas faire, parce que il n'était pas forcément aussi désirable qu'un jeune gars de 25 ans, mais qui l'empêchait en même temps d'apporter son expérience en termes d'organisation du mouvement. Sauf qu'une grande partie des gens du phare ne voulaient pas de cette organisation-là, en disant que ça allait faire que le mouvement allait être récupéré. Le phare, c'est comme un feu d'artifice, c'est un geste inaugural de ce qui va être l'émancipation homosexuelle, et les vrais combats vont se jouer après. Sauf que lui voulait déjà que les choses se jouent à cet endroit-là, ce qui était pas possible.
D'abord, je ne me bats pas que pour la libération de l'homosexuel, je me suis battu toute ma vie pour la destruction de la société de classe actuelle. Ceci dit, je ne pense pas que dans cette société de classe telle qu'elle est, l'homosexuel soit vraiment libéré aujourd'hui. Une minorité seulement, surtout dans les milieux artistiques, dans les milieux des grandes villes, profite d'un certain libéralisme. Alors qu'au contraire, dès qu'on s'éloigne du centre parisien et que l'on va dans les lointaines provinces, on voit que le préjugé est toujours aussi tenace et aussi pesant et aussi affreux à supporter. Les statistiques, notamment des condamnations telles qu'on les trouve dans les archives du ministère de la Justice, montrent qu'au moins 50% des condamnés pour homosexualité sont des salariés, soit ouvriers, soit employés. Et en plus de cela, je pense que l'argument selon lequel les ouvriers sont plus réticents à l'égard de l'homosexualité provient du fait surtout qu'ils sont moins informés, qu'ils connaissent moins les explications scientifiques de l'homosexualité. Et je pense que la société de classe, de toute façon, est, elle, responsable de la persécution des homosexuels. Car elle est un résidu de la vieille tradition millénaire patriarcale que la bourgeoisie a reprise à son compte. Les valeurs, notamment celles de la famille, auxquelles les bourgeois tiennent tant, sont des valeurs qui sont étroitement liées au patriarcat et par conséquent à la répression de l'homosexualité.
Il sera très critique par rapport à... à la destinée du mouvement homosexuel comme il le sera par rapport à la destinée d'un tas d'aspects de l'émancipation sociale en France. C'est-à-dire qu'il verra se mettre en place des processus de récupération. Là, il est assez proche des thèses situationnistes sur la question, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la récupération par le spectacle, par la marchandise, la mise en place d'une société et d'une économie libidinale, d'une économie des rapports amoureux, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, d'une standardisation des échanges et des rapports amoureux le désolera profondément. C'est là où il voyait. Finalement, il se rend compte que l'homosexualité s'émancipe à l'intérieur d'un certain nombre de valeurs qui étaient des valeurs bourgeoises, qui étaient celles contre lesquelles, dans le mouvement d'émancipation, l'homosexuel luttait, et que finalement, il y avait une forme de récupération qu'il désespérait. Il trouvait pas sa place là-dedans. Puis il vieillit. Il approche des 80 ans et ça le terrifie complètement. Il est absolument terrifié par la vieillesse. Mais il vit à 77 ans une histoire d'amour avec un garçon de 17 ans qui lui avait été présenté par Jean Lebitou, qui était le fondateur du Guépier. Un garçon qui s'appelait Gérald, et avec lequel il partage sa vie pendant 4 ans. C'est un rapport de fascination réciproque, l'un pour ce qu'était Guérin, à l'époque quand même, un vieillard, disons, extrêmement jeune d'esprit, et extrêmement impliqué dans toute forme de lutte, avec lequel on pouvait parler de tout, qui était Et ça, tous les militants avec lesquels il continue à militer après, les gens de l'UTCL, les communistes libertaires, les grèves des postiers de 1974, les autres grèves ultérieures, même jusqu'en 1986, le diront. Il y a une anecdote extraordinaire pendant les grèves de 1986, donc Guérin, 2 ans avant sa mort, s'assoit au bord du boulevard de Port-Royal où passait une manif, voit passer le cortège. Dans le cortège, il y avait Daniel Cohn-Bendit, qui venait d'écrire son bouquin « Nous l'avons tant aimé, la Révolution ». Guérin est assis là sur sa chaise, avec sa canne, il était très malade. Puis il crie « Oui, vive la jeunesse, vive la Révolution !» Puis il voit Cohn-Bendit, et là il se lève, il s'approche de Cohn-Bendit, qu'il connaissait de 68. Cohn-Bendit le salue, Guérin lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Nous l'avons tant aimé, la Révolution, tu l'aimes plus, la Révolution ?» Et il y a cette espèce de verdeur et d'engagement qui reste très fort jusqu'à la fin. Toujours dans une sorte d'absence de compromis.
Je ne suis pas assuré de vivre encore très longtemps. Et par précaution, j'ai tenu à marquer que je souhaiterais que mon dernier témoignage, mes dernières pensées, soient concentrées autour de mon amour des garçons. J'aurais pu, ayant écrit des livres sur des quantités de sujets, ayant une expérience et une conviction sociale très affirmées, faire une synthèse de mes convictions révolutionnaires, antimilitaristes, anticolonialistes, etc. Si j'ai tenu à ce que ce livre-là soit intitulé « Son testament », c'est que je pense que l'homosexualité a joué un rôle si primordial dans mon existence, a tellement hanté mes jours et mes nuits depuis l'âge de 15 ans, que le message que je souhaite laisser de moi, c'est celui-là, et pas un autre. Le fait que je sois marié, père, grand-père, bisexuel, homosexuel, tout cet ensemble détonnant, il me semble que c'est cela que je dois léguer comme point final de mon expérience d'écrivain et d'homme.
Oui, ces dernières années sont des années assez tristes parce qu'elles sont marquées par la maladie, parce qu'elles sont marquées aussi quand même par cette sorte de désabusement qu'il a lorsqu'il voit comment le mouvement homosexuel évolue, comment une partie des homosexuels devient un lobby du Parti Socialiste. Il y a des affaires de grenouillage, de copinage, et puis comment le ghetto homosexuel se met en place. Ça, c'est quelque chose qu'il a beaucoup de mal à supporter. Il faut s'imaginer Guérin se baladant sur le boulevard Barbès dans les années 25, levant des ouvriers, allant dans des pioles, des mansardes avec eux et s'envoyant en l'air. On peut comprendre que ça puisse avoir quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant, à la fois excitant et à la fois émancipant, que d'aller dans des lieux standards où on rencontrera des gens standards, dans des formes de rencontres standards, avec des pratiques standards. Et il avait un regard sur ça qui était un regard extrêmement lucide, et tout en conservant une grande fascination, une grande tendresse pour la jeunesse. Parce que ça, c'est la dernière différence de classe, si je peux m'exprimer ainsi. Dans les années 20, c'était lui et la classe ouvrière. Ensuite, ça a été lui et les colonisés. Et ensuite, ça a été lui et les jeunes. Dans ce même type de rapport, qu'est-ce que je peux faire pour? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Qu'est-ce que je peux leur apporter?
Daniel Guérin du Politique et du Charnel, avec Laurent Mulhaisen, co-auteur avec Patrick Spadoni du film Daniel Guérin, Combat dans le siècle. La voix de Daniel Guérin, texte lu par Jean-Louis Greenfield. Archivina Annie Saunier. Les archives de Daniel Guérin sont disponibles et consultables à la BDIC. Remerciements Anne Guérin, équipe de réalisation Marie-Dominique Bougot, Anne Le Gaennec, Ghislaine David. Une émission de Philippe Artière.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 mai 2003.